Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode 3 de Mixture, une émission 100% culture. Au programme aujourd'hui, notre chroniqueur Antonin Patarin nous parlera des sorties cinéma de la semaine, du genre super-héroïque à la comédie dramatique. Il nous donnera son avis sur les films marquants de cette semaine. Du côté de la musique, Alexis Andoir nous fera son tour d'horizon de toute l'actualité musicale. Chaque semaine, de nouveaux livres sortent et Pauline Le Gall s'est intéressée à son top des meilleurs livres pour les amoureux. Elle nous dira tout dans sa chronique littérature. Pour finir, notre chroniqueur Thomas Bovino est resté à l'affût de tout ce qui s'est passé sur Internet cette semaine et nous livrera tout dans la chronique Le Monde d'Internet. On commence tout de suite par la chronique cinéma avec Antonin Patarin. Ce mercredi, Marvel était de retour dans les salles avec le nouveau Captain America Brave A New World. Le 35e long-métrage Marvel est le premier réalisé par Julius Ohna et signe le renouveau d'un héros emblématique de la franchise.
Captain America est de retour. C'est en tout cas la promesse du nouveau Marvel qui, malgré le départ de Steve Rogers dans Endgame, remet le célèbre bouclier bleu-blanc-rouge dans les mains d'un héros. Et ce dévolu tombe sur Sam Wilson, alias le Faucon, qui en plus de récupérer le fameux bouclier, récupère le nom, la popularité et tout ce qui va avec. Déjà intronisé dans plusieurs Marvel et dans une série éponyme, le Faucon est un personnage récurrent qui était le successeur logique à Captain America.
Et sur le film en lui-même, qu'est-ce que tu peux en dire ?
Captain America Brave A New World est un Marvel sans être un Marvel. Bien sûr, il se déroule dans le même monde que les autres films du MCU et on y retrouve des références à peine cachées, aux Éternels, à Hulk ou encore à Black Widow, mais l'ambiance générale du film s'éloigne des précédents opus. On y retrouve moins de combats et beaucoup plus de tout ce qui fait les codes du thriller d'espionnage. Un rythme ralenti pour une intrigue mieux développée, des lumières assez sombres pour transparaître les zones d'ombre de l'univers et surtout une montée progressive de l'action pour une meilleure immersion.
Et visuellement, qu'est-ce que ça donne ?
Le film se veut très réaliste et accentue les ombres pour renforcer le côté paranoïaque omniprésent dans le film. Les plans courts et serrés sont alternés avec des plans plus larges qui donnent un peu d'air à ce film. Les musiques aident aussi à rythmer le film. Elles sont tantôt discrètes pour souligner les moments de tension, tantôt présentes pour marquer l'instant. Au niveau des combats, le style Captain America est aussi totalement revisité. Pas de super sérum pour Sam Wilson, pas de musculature surdéveloppée, le nouveau protagoniste casse les codes de l'ancien super soldat. De même, le bouclier est un objet beaucoup plus réaliste et très démythifié.
Et toi, personnellement, qu'est-ce que tu en as pensé ?
Ce nouvel opus de Captain America est un film réussi, très réussi même. Les performances des acteurs sont très bonnes. Anthony Mackie est très bon dans le rôle du nouveau héros qui avoue ses faiblesses et ses craintes, mais qui arrive aussi à être un mentor. Le développement amené au personnage du Faucon, nouveau Captain America, est un axe essentiel du film et est très bien joué. Pareil pour Harrison Ford, l'arrivée dans le MCU d'un acteur iconique en tant que rôle principal est assez rare. Et là, ça colle parfaitement. Son apparition dans le rôle de Thaddeus Ross, ex-militaire et président des États-Unis, est très réussie et contraste avec ses anciens rôles d'aventurier. Le seul petit bémol que moi j'ai vu, c'est le méchant, ou plutôt les méchants. On nous a teasé un Hulk rouge en grand état de forme, mais on ne le voit que très peu au final. Et l'antagoniste principal, quant à lui, est assez complexe, mais son histoire est très, voire trop vite passée.
Autre film de cette semaine, le quatrième volet de la série Bridget Jones. Maintenant âgée de 50 ans et veuve, Bridget voit sa vie s'effondrer peu à peu et n'arrive pas à retrouver la motivation de vivre. Un questionnement qui va troubler sa vie et celle de ses enfants. Dites-nous ce que vous en avez pensé, Antonin.
Je vais avoir du mal à être objectif, Thomas, car tout simplement, en fait, j'ai pas vu les trois premiers films. Mais je vais quand même essayer. On le présente en bande-annonce comme un film un peu cucu, mais pourtant, en fait, il n'en est rien. Ce quatrième opus de Bridget Jones sort des sentiers battus, se concentre en profondeur sur le personnage principal et pose la question très personnelle de la vie après la mort d'autrui. Pendant tout le film, on y voit des personnages en proie au doute, à la tristesse, à la réflexion.
Et sur le plan de la performance, qu'est-ce que ça donne ?
Les performances des acteurs principaux sont assez réussies, même si certains tendent vers les clichés. Le jeune étudiant beau gosse, la nounou jeune et parfaite... Certes, ces clichés sont là pour aider au développement du film et du personnage principal, mais pour moi, ceux-ci sont un peu trop poussés. De même pour l'entourage vieillissant et snobinard du début de film qui n'apporte pas grand-chose. Mais à côté, la performance de Renée Zegweiler dans le rôle d'une femme dans la fleur de l'âge et tiraillée intérieurement est excellente. Il y a aussi le retour d'un acteur que j'aime beaucoup, Hugh Grant, qui joue son rôle d'ancien amant et coureur de jupons à la perfection, même si tout au long du film, celui-ci acquiert un aspect plus profond et plus sombre.
Au final, est-ce qu'on peut dire que c'est un film plutôt réussi ?
Oui, Thomas, Bridget Jones est un film réussi, déjà parce qu'il peut se voir seul. Nous avons beaucoup d'allusions au précédent film, mais la trame principale se suffit à elle-même et l'impact des anciens protagonistes est assez minimal. On sent un film authentique et loin du cliché cucu du reste de la série. Les quelques scènes romantiques et un peu niaises sont reléguées au second plan et n'apportent rien de plus, mais rien de moins à l'intrigue. Le film est profond, sincère et amène au spectateur beaucoup de questions sur sa vie à lui.
Cette semaine marque aussi le retour d'une série mythique diffusée sur les antennes de Canal en 2011. La série Bref de Kian Kojandi s'offre une nouvelle jeunesse avec une nouvelle saison et un nouveau format.
13 ans après la diffusion du dernier épisode, Bref revient sur Disney+ pour une nouvelle saison. La série humoristique de Kian Kojandi et Bruno Muschio avait conquis un très grand public à sa sortie sur les écrans de Canal en 2011 et avait continué d'exister sur YouTube, permettant ainsi aux nouvelles générations de découvrir ce format court de 2 minutes, très répétitif et très addictif. Cette nouvelle saison, teasée il y a quelques semaines, sera plus courte, 6 épisodes contre les 82 de la première saison, mais avec des épisodes beaucoup plus longs, entre 30 et 40 minutes contre les 2 minutes de l'époque.
Dans le fond, est-ce qu'on sait déjà à quoi ça va ressembler ?
À quoi ça va ressembler ? Non, on ne sait pas vraiment. Mais qui il y aura ? Oui, là, on a des pistes. Dans le teaser sorti la semaine dernière, on y retrouve les personnages principaux, avec Baptiste Le Caplin, Bérangère Criff, Kevin Kojandi. Mais on a aussi l'arrivée de nombreuses personnalités du paysage comique et humoristique français, comme Le Palmachot, Laura Felpin, Jonathan Cohen, Jean-Paul Rouve. Mais on a aussi des artistes, comme Aurel San et Gringe, l'ancien duo de Bloqué.
On sait qu'actuellement, les youtubeurs, on le vend en poupe pour l'humour. Est-ce qu'on sait s'il y aura des youtubeurs dans cette...
Je crois que dans le teaser, on n'en voit pas.
En tout cas, c'est le cas pour le Palmachot.
Oui, c'est le cas pour le Palmachot qui est aussi sur YouTube. Je crois qu'on n'en voit pas, mais d'après les teasers qui ont été faits par des youtubeurs justement pour ça, on pourrait peut-être s'attendre à voir.
Si, il va y avoir pas mal de youtubeurs. En tout cas, moi, je sais qu'il y aura notamment l'arrivée de Carlito, du duo McFly et Carlito, qui va jouer donc le copain du frère de Kian Kojandi dans la série. Okay. Donc, je pense que oui, on peut s'attendre à avoir des youtubeurs. Moi, j'ai une question pour toi, Antonin. En tout cas, la série passe sur Disney. Disney Plus maintenant, elle était sur Canal avant. Qu'est-ce que ça change et est-ce que tu comprends les réactions des personnes qui s'indignent du changement et du passage de Canal Plus à Disney Plus ?
Je comprends parce que historiquement c'était sur Canal Plus et pendant 82 épisodes ça a été sur Canal Plus. Après la série s'est arrêtée pendant un long moment. Du coup le fait qu'il y ait un long temps d'attente entre les deux, ça me choque pas que ça ait changé de plateforme. Après je pense que ça peut être dû à des problèmes. Peut-être de la part des producteurs, donc Kian Kojandi et Bruno Muschio, vis-à-vis de Canal+, et qu'ils ont préféré aller sur Disney+. En tout cas, moi, je n'ai pas la raison de pourquoi ils ont changé. Moi, ça ne me choque pas. Après, s'il y en a que ça choque, je comprends aussi.
Dernière petite question pour toi. Kian Kojandi, c'est une personnalité qui revient de plus en plus ces derniers temps, notamment avec sa série Hot Ones, donc là aussi sur Canal+, où il mange des nuggets de poulet avec des sauces ultra piquantes, avec des personnalités publiques. Ouais. Est-ce que tu penses que ça va faire augmenter du coup le visionnage de la série Bref, ou est-ce que au contraire ça va faire l'inverse?
Cette série en particulier, je sais pas, mais c'est vrai que Kian Kojandi revient assez souvent dans le paysage humoristique, mais aussi du cinéma français. On le voit dans beaucoup de choses. Et en fait, je pense que ce qui est intéressant, c'est que, comme je l'ai expliqué, la série Bref a continué à exister sur YouTube. Il n'y avait pas forcément besoin d'avoir Canal, et ça a apporté de nouvelles personnes. Et je pense que c'est vraiment cet élan-là d'avoir gardé la série sur une plateforme accessible qui va ramener du monde. Après, forcément, les gens qui suivent Kian Kojandi sur Hot Ones ou dans le paysage audiovisuel français et qui ne connaissaient pas Bref, ça va les ramener sur Disney+.
Merci Antonin.
Il est maintenant l'heure de la rubrique musique. C'est avec ces jolies cernes qu'Alexis va nous parler des albums qu'il a écoutés dès leur sortie à minuit. On commence directement avec un projet surprenant. Il nous avait conquis avec sa voix en 2017 dans The Voice et il a enchaîné les succès depuis. Aujourd'hui, Lisandro Cuxi revient avec Cuxi Boy, son tout premier album sorti en ce 14 février, jour de la Saint-Valentin. Un projet introspectif où il nous parle d'amour sous toutes ses formes.
Et oui Thomas, quoi de mieux que le 14 février pour parler de l'amour. Cuxi Boy, c'est un album à la fois intime et universel. Lisandro Cuxi nous embarque dans un voyage sentimental où l'amour se décline sous toutes ses facettes. La passion, la jalousie, la rupture, mais aussi la réconciliation. Il nous avait déjà donné un aperçu avec BTLV, son EP sorti l'an dernier, mais ici, il va encore plus loin. Ce qui frappe d'abord, c'est la diversité musicale. On oscille entre R&B, Afrobeats et même gospel, un clin d'œil direct à ses origines capverdiennes. D'ailleurs, il l'assume pleinement, notamment sur le morceau Sereya, où il reprend les codes de la kizomba, un vrai retour aux sources qui apporte une touche de sincérité supplémentaire à l'album. Et puis, il y a les collaborations, DSL avec Merveille, OLY avec Joué Doué Filé, Revient avec Monsieur Nov, que des invités qui viennent enrichir ce voyage émotionnel. Chaque featuring apporte une nuance différente au récit que Lixandro veut nous raconter.
Et justement, dans ce récit, il y a un vrai fil rouge, l'amour. Sous toutes ses formes, tu l'as ressenti comment ?
Complètement Thomas, Lixandro ne se contente pas de chanter l'amour, il le raconte, il le vit. Cooksie Boy, c'est une sorte de journal intime musical. Prenons VMV par exemple, qui parle d'une relation toxique, ou encore Revient, qui évoque la difficulté de renouer avec quelqu'un qu'on a blessé. Il y a un équilibre parfait entre introspection et mélodie entraînante. Mais le moment le plus fort, c'est sans doute dans Ma Vraie Vie. C'est là qu'il se livre totalement. Il parle du manque de sa famille, du besoin de se reconnecter au sien. Et cette conclusion avec l'extrait d'un appel téléphonique avec sa mère, c'est juste bouleversant. On sent que cet album, c'est plus qu'un projet musical, c'est une thérapie pour le chanteur.
Alors Alexis, selon toi, avec Cooksie Boy, Lisandro Cooksie, il passe un cap dans sa carrière ?
Oui, sans aucun doute. Fini le « bâtard lover » entre guillemets un peu insouciant. Place à un artiste plus mature, plus introspectif. Il assume ses émotions, ses erreurs et sa vision de l'amour. Il prouve qu'il n'est pas juste un chanteur de hit, mais bien un artiste complet, avec une vraie direction artistique et une identité forte. C'est un album qui va parler à beaucoup de monde parce qu'il est sincère. On y retrouve des sonorités actuelles, des influences personnelles et surtout une authenticité rare. Cooksie Boy, c'est un tournant pour Lisandro Cooksie et honnêtement, c'est une réussite.
Et bien voilà qui donne envie d'aller écouter l'album en boucle. Attendu au tournant après 2 ans de discrétion, Impliqué 140 fait son grand retour avec P1, son premier album. Drill tranchante, flow aiguisé, le rappeur de Clamart annonce la couleur. Alors, est-ce qu'il confirme les attentes ou il dépasse encore une fois les pronostics ?
Ah, Impliqué 140 n'a pas fait les choses à moitié avec P1, ça c'est sûr. Après avoir marqué les esprits en 2021 et 2022 avec sa maîtrise de la drill et des morceaux ultra efficaces, il devait frapper fort pour son premier véritable album. Et franchement, mission accomplie. Dès l'intro, il nous met dans le bain, une prod sombre, un débit ultra rapide et une énergie brute. C'est un projet qui ne laisse aucun répit avec des bangers taillés pour retourner les showcases et les voitures à fond la caisse. On y retrouve tout ce qui fait son succès, des punchlines incisives, une ambiance street ultra authentique et surtout une maîtrise technique impressionnante.
Et justement, il avait déjà balancé Gassama en janvier qui donnait le ton. L'album, il est dans la continuité ?
Oui et non, Gassama annonçait bien la couleur avec une drill agressive et un refrain entêtant. Et clairement, on retrouve cette énergie tout au long du projet. Mais Impliqué 140 a aussi surpris en explorant de nouvelles vibes. Il y a des morceaux plus mélodiques, un peu plus introspectifs, où il laisse entrevoir une facette plus réfléchie.
Donc au final, on n'est pas juste sur un enchaînement de son drill.
Exactement, et c'est là que P1 marque une vraie révolution. Bien sûr, la drill est omniprésente, c'est son terrain de jeu, il la maîtrise trop bien, mais il a su la varier. Certains morceaux flirtent même avec la trappe. Il y a un vrai travail sur les ambiances. On sent qu'il a voulu proposer un projet complet, pas juste une collection de singles prêts pour les playlists.
Un premier album, c'est toujours un tournant dans une carrière. Est-ce qu'Impliqué 140, il passe un cap avec P1 ?
Franchement, oui. Il aurait pu juste capitaliser sur son succès passé et livrer un projet drill classique, mais il a fait plus que ça. Il prouve qu'il est là pour durer, qu'il sait se renouveler sans perdre son identité. Il garde son ADN street, mais il montre aussi qu'il peut élargir son spectre musical. Là où certains finissent par tourner en rond après quelques projets, lui, il arrive avec un album cohérent, bien construit et surtout percutant du début à la fin. C'est un retour réussi qui va clairement relancer la machine et asseoir sa place dans le rap français.
Donc bilan P1, un projet qui confirme tout le potentiel d'Impliqué 140 ?
Carrément, c'est un projet solide, compact et ultra efficace. Il y a des morceaux qui vont tourner en boucle dans toutes les enceintes et dans toutes les rues. Son retour était attendu et il ne déçoit pas. Impliqué 140 montre qu'il est toujours aussi affûté et qu'il est prêt à reprendre sa place dans le game. Et puis, vu la réaction des fans dès la sortie, on peut s'attendre à voir pas mal de ses titres squatter les top streams dans les prochains jours. Bref, un album à ne pas rater.
Merci beaucoup pour cette analyse. P1, le tout premier album d'Appliqué 140, est dispo partout, sur toutes les plateformes. On passe outre-Atlantique maintenant, le rappeur Drake sort enfin du silence après des mois de tension et un clash ultra médiatisé avec Kendrick Lamar. Le rappeur canadien revient en musique avec Some Sexy Songs For You, un projet commun avec son fidèle collaborateur Party Next Door. Alors, ce retour est-il une réponse à ses détracteurs ou juste un projet 100% séduction ?
Eh bien Thomas, c'est la grande question. Si certains espéraient une contre-attaque en musique après l'humiliation subie au Super Bowl, ce n'est pas vraiment le cas ici. Avec Some Sexy Songs For You, Drake a choisi plutôt de revenir à son ADN, des morceaux sensuels, des productions léchées et cette alchimie bien connue avec Party Next Door. C'est un EP aux sonorités R&B vaporeuses avec des touches de trap et d'afrobeat, parfait pour une Saint-Valentin placée sous le signe du romantisme ou du regret selon comment on l'écoute. L'ambiance rappelle les collaborations passées entre les deux artistes comme Come and See Me or Recognize, mais ici le ton est plus posé, presque mélancolique avec des textes qui parlent d'amour, de relations compliquées et forcément de trahison.
Effectivement, donc au final, on est loin d'un diss track façon Not Like Us.
Oh oui, on en est très loin, aucun tir direct envers Kendrick Lamar, pas de pic explicite, mais attention, on connaît Drake. Il est passé maître dans l'art des sous-entendus. Certains de ses fans ont déjà relevé des phrases qui pourraient être des réponses déguisées. Par exemple, sur Late Night Messages, il parle d'un homme obsédé qui ne peut pas s'empêcher de parler de lui. Ça laisse place à l'interprétation. Mais globalement, il adopte une posture plus introspective. On sent qu'il a pris un goût dans toute cette histoire. Numb, par exemple, est un morceau où il évoque une certaine lassitude, comme s'il voulait tourner la page. C'est un choix stratégique. Plutôt que de répondre frontalement, il rappelle qu'il est au-dessus de tout ça, ou en tout cas, il essaye de le faire croire.
Et dans le projet Party Next Door, où est-ce qu'il en est ? Qu'est-ce qu'il apporte au projet ?
Il est bien plus qu'un simple featuring. Party Next Door, c'est l'un des piliers du label Ovosound et surtout l'un des artistes avec qui Drake a toujours eu une connexion musicale forte. Sur cette EP, il est omniprésent. Il apporte ce côté R&B alternatif et sombre qu'on lui connaît. Et il permet à Drake de s'éloigner un peu du rap pour explorer des vibes plus sensuelles et plus hypnotiques. D'ailleurs, certains titres comme No Callback ou Only Us Tonight sont clairement dominés par Party Next Door, qui y impose son univers. On sent qu'ils ont voulu faire un projet cohérent, quelque chose qui s'écoute d'une traite, comme une bande-son nocturne pour les cœurs brisés ou les nuits agitées.
En gros, un retour plus subtil que frontal, mais est-ce que ça suffira à faire oublier Not Like Us ?
Honnêtement, non. Not Like Us a été un raz-de-marée, un morceau qui entre dans l'histoire du rap, récompensé aux Grammys et qui continue d'être streamé par des millions de personnes. Face à ça, Some Sexy Songs For You ne joue clairement pas sur le même terrain. Mais est-ce un mauvais calcul pour autant ? Pas forcément. Drake sait que s'il répond trop frontalement, il risque d'alimenter encore plus la hype autour de Kendrick. Avec cette EP, il recentre l'attention sur ce qu'il fait de mieux, des morceaux catchy, un univers mélancolique et une capacité à capter l'air du temps. Il ne veut pas être entraîné dans une guerre sans fin, il veut juste rappeler qu'il est toujours là, à sa manière.
Et justement, selon toi Alexis, ce projet, c'est une réussite ?
Eh bien, si on le prend pour ce qu'il est, un EP R&B chill et introspectif, oui, c'est une réussite. Les productions sont soignées, la complicité avec Party Next Door fonctionne toujours et certains morceaux vont clairement tourner en boucle chez les fans de Drake. Mais si on attend un vrai statement après les événements des derniers mois, on risque d'être déçu. Some Sexy Song For You ne répond pas à la guerre médiatique, il l'évite. Drake joue la carte du lover blessé plutôt que du rappeur revanchard. Est-ce un aveu de faiblesse ou une stratégie intelligente ? Seul le temps nous le dira.
Merci Alexis. Moi j'avais une question justement sur ce clash entre Kendrick Lamar et Drake. Est-ce que pour toi la scène du Super Bowl, c'était comment ? C'était là l'endroit où Kendrick Lamar avait le droit d'attaquer Drake. Est-ce que pour toi ça n'a pas un peu gâché la fête du Super Bowl ?
Alors moi honnêtement, en ayant vu la mi-temps du Super Bowl en entière, déjà j'ai trouvé que la performance de Kendrick était plutôt réussie. Les fans n'ont pas été totalement convaincus. Certains ont dit même qu'il n'y avait pas d'ambiance dans le stade. Donc on peut dire que c'est peut-être une performance en demi-teinte. Après, c'est vrai que je pense que quand il est arrivé sur Not Like Us, là, tout le monde s'est dit « Ouais, ok, Kendrick Lamar, c'est quelqu'un qui a osé affronter Drake vraiment sur l'événement le plus regardé de l'histoire de la planète sportive. » Donc, est-ce que c'était vraiment le moment où fallait attaquer Drake ? Je ne sais pas, c'était peut-être pas le moment. En tout cas, ça a été totalement réussi. Mais c'est vrai que Drake aura du mal à s'en remettre.
Eh bien, une chose est sûre, on va en entendre parler. Merci Alexis pour cette analyse.